ce petit rayon de soleil, Mimi, c'est formidable. J'ai pu lire le journal sur le petit banc.
Peut-être que j'aurais dû te prévenir. Je pensais que tu sentirais l'odeur de la peinture fraîche.
Combien de fois je me suis perdue en chemin, avec qui vider son sac. Peut-être que le premier face-à-face à avoir, c'est avec soi-même. Je crois que mon invité d'aujourd'hui ne me contredira pas et qu'on ira même plus loin que ça, puisque c'est le sujet de son livre sorti en décembre dernier. Je te souhaite de te perdre en chemin, publié aux éditions Révolution. Et oui, à mes côtés aujourd'hui, Élise Berthier, qui est donc l'autrice de cet ouvrage. Bonjour Élise, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Margot, merci beaucoup.
Donc on parlera ensemble de ton parcours que tu nous racontes dans ce livre qui commence à ce jour où tu as pris la décision de partir pour une aventure à pied de 4300 km sur le chemin de Compostelle, de Genève jusqu'à Mouchia, puis le long du GR34 du Mont-Saint-Michel à Nantes. Donc on revient là-dessus dans quelques instants. Lise et Lucie amènent bien sûr aussi beaucoup de lumière dans ce studio. Peut-être que vous nous annoncerez toutes les deux du soleil aussi. Suspense, suspense. On vous retrouve en milieu d'émission pour le point météo et pour l'actu en bref, mais quand même bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Et on ne s'arrête pas là, peu importe le temps qu'il fait. On parlera en deuxième partie d'émission avec toi, Lucie, puisque la semaine dernière, c'était la semaine olympique et paralympique. Tu as été à la rencontre de Florian Stiwi, qui animait pour l'occasion un atelier auprès des jeunes de l'IME de Laval et des jeunes de l'école Germaine Tillon. Et donc, on voit ça en deuxième partie d'émission. On termine avec l'UFC Que Choisir de la Mayenne et Jean-Michel Guinaudot qui aujourd'hui nous parle des dépannages d'urgence et donc ça clôturera cette très belle émission d'aujourd'hui de l'Agité du local. Bienvenue à vous, amis auditeurs, je suis Margot et on passe ce moment ensemble et je suis particulièrement contente d'ouvrir cette émission avec Élise Berthier, je vous le disais. Elle est l'autrice donc de l'ouvrage « Je te souhaite de te perdre en chemin » sorti en décembre dernier aux éditions Révolution. Alors l'histoire que tu nous racontes, c'est en fait ton histoire. Ça commence en 2022, après une expérience de 8 ans dans les ressources humaines d'entreprises du CAC 40, de start-up, entre autres. Ce n'est plus possible pour toi à ce moment-là et tu décides donc de partir un pied devant l'autre. Tu l'écris de cette manière-là et tu dis aussi qu'il était temps que tes jambes aient aussi leur mot à dire. Alors cette aventure, c'est une aventure, on le disait, de 4300 km à pied. Et ça a commencé donc finalement avec un moment un peu difficile, un burn-out. C'est le début, c'est ce qui te donne envie de partir.
Exactement, je ne sais pas si donner envie, c'est le, c'est le bon terme. Mais en tout cas, oui, après 8 ans passés à Paris, enfermée dans la ville, avec peu de nature, effectivement, j'ai comme un appel de mon corps qui me dit... Bon, ça suffit, j'en ai marre d'être assise sur une chaise devant un ordinateur. Et j'ai moi aussi envie de me mettre en mouvement, malgré la fatigue à ce moment-là. Et du coup, effectivement, je décide de partir marcher d'abord sur un trajet qui était du Mexique au Canada, parce que mon petit frère se mariait là-bas. Et finalement, bon, je crois que mon corps n'était pas encore prêt. et donc, je suis revenue en France, comme tu le disais, sur le chemin de Compostelle, puis en Bretagne.
Et donc, tu pars avec un sac à dos pour cette marche et c'est très beau comment tu le racontes finalement. Ce que contient ce sac, c'est le poids des souffrances aussi. Et la marche, c'est l'environnement idéal, tu le dis, pour verbaliser ces souffrances. Et alors, les premières qui sortiront, tu le formules comme ça, ce sont les plus criantes. C'est vraiment un parcours initiatique, tout ce que tu nous racontes. Et on sent qu'au début, il y a déjà des choses qui émergent dès les premiers pas.
Effectivement, et je pense que d'ailleurs au début, c'est mon corps qui crie en premier. alors, je ne voulais pas vraiment écouter mes problèmes de sommeil et tout le reste. Mais là, forcément, quand on a mal à une cheville, quand on commence à marcher, on est obligé de l'écouter. Et c'est comme ça que petit à petit, je remonte sur... je me porte consciente de ce qui se passe aussi dans ma tête et physiquement. Effectivement, c'est les premières souffrances sur lesquelles... je mets des mots, notamment dû à la lourdeur de mon sac, parce qu'au début, je porte beaucoup de choses avec moi.
Ça a l'air d'être justement ce sac à dos, il revient à plusieurs moments dans ce livre. Il y a même un moment, si je me trompe pas, c'est dans le Gers, où avec un ami, vous videz tous les deux votre sac, puis vous faites un peu le point sur le rapport aux objets. Il y a tout un lien aussi entre ce que contient ce sac et un moment, pourquoi on garde tout ça. Il y a beaucoup de peur, vous dites un moment, tu le dis ça, un moment dans l'ouvrage, il y a de la peur. Pourquoi on n'ose pas se séparer de tel objet ? On se raccroche à des choses, c'est très très beau.
Ouais, c'était un moment hyper intéressant parce que toute seule, j'étais capable de me dire... J'étais capable de me dire ça et ça, je l'ai en trop. J'avais une doudoune encore, je crois, dans mon sac alors qu'il faisait 35 degrés. Je me disais, mais pourquoi je porte ça avec moi ? Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui fait le même exercice, et je me souviens, mon ami avait du déodorant pour les pieds dont il ne s'était jamais servi, et une carte, il marchait sans smartphone, et une carte qui n'était pas à la bonne échelle pour suivre vraiment le chemin. Et le fait d'entendre à haute voix ce qu'on est en train de dire à l'autre, ça fait sauter le pas. Et l'autre, des fois, bah, prend l'objet de nos mains et puis dit... Allez, c'est fini, on le renvoie.
Et donc, tu te retrouves sur le chemin de Compostelle. Au début, tu ne t'identifies pas du tout aux pèlerins. Finalement, cette marche, ça t'a permis de rencontrer des gens, de partager avec eux des moments particulièrement forts. On a l'impression de vraiment les vivre avec toi. Et ces gens-là, ce sont des gens sur lesquels tu ne te serais pas forcément arrêté. Cette marche, finalement, ça t'a permis, enfin, c'est toi qui vas me le dire, ça a été plus loin même que ce que tu avais imaginé tout au départ, avant de démarrer ce chemin-là.
Mmh. Complètement, et d'ailleurs au moment où j'ai pris la décision de marcher, donc déjà je connaissais pas les chemins de Compostelle, donc j'avais juste cherché le plus long sentier de randonnée, et puis j'étais tombée sur le sentier qui fait 2000 km entre Genève et Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je l'avais même pas associé à Compostelle, quoi. Pour moi j'allais marcher, et puis j'avais un besoin, après des années à parler à plein de gens, à faire passer des entretiens, avoir plein d'amis le soir, j'avais vraiment un besoin de solitude et de me retrouver avec moi-même. Et donc, au début, les autres, ils n'existaient pas sur mon chemin, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au Puy-en-Velay et que j'ai rencontré plein de gens, je me suis mis dans ma bulle. Je crois même que j'ai mis mes écouteurs alors que je ne marchais pas beaucoup avec la musique. Mais là, j'avais besoin de dire « Ok, je ne suis pas accessible et je suis toujours toute seule ». Et ce qui, au fur et à mesure, a beaucoup évolué.
Tu parles beaucoup, on y revient souvent dans le livre, d'une marche anonyme aussi. C'est intéressant ce que tu mets derrière ça.
Mmh. À la fois, j'ai eu l'impression en marchant de retrouver ma propre identité, là où je me sentais, je crois que j'utilise le mot de clone dans le livre, mais vraiment comme une parmi des tas de gens à faire le même métier, à avoir les mêmes passions, à aller aux mêmes endroits, notamment à Paris. Alors même qu'il y a une multitude d'endroits, en fait, on se retrouve toujours au même endroit. Je courais beaucoup, et en fait, comme tout le monde, parce que c'était un effet de mode, et je me sentais déjà bercée dans un anonymat, mais qui a complètement changé en marchant. Et notamment sur la première partie de marche, j'ai vraiment l'impression d'être... de me trouver moi différente et aussi loin de mes cercles familiaux, amicaux. Et du coup, on m'identifie en tant que moi personne et pas en tant que membre d'un groupe. Donc il y a eu à la fois le fait de retrouver mon individualité. Et à la fois, notamment sur la deuxième partie de ma marche, quand je disais que je marchais du Mont-Saint-Michel jusqu'à Nantes, ça parlait à personne. Donc on me disait « Ah, c'est cool ». Et puis on me laissait partir, quoi. Donc c'était aussi là le fait d'entreprendre quelque chose qui était hyper banal. Parce que marcher, en fait, on peut tous le faire et c'est le truc le plus naturel. banal. Et moi, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la banalité et dans l'anonymat. Et de plus être un simple statut social aussi. J'avais vraiment l'impression d'être résumée à mon métier ces dernières années. Mmh. Et là, j'étais juste la fille qui marche, en fait, comme tout le monde.
Mmh. Et on t'a posé plusieurs fois la question, tu le dis dans le livre, de « Mais t'as pas peur de partir toute seule ?» Et finalement, cette solitude-là, c'est pas celle qui te faisait le plus peur.
Ouais, effectivement, on m'a posé beaucoup de fois la question, on me la pose encore maintenant, et j'ai du mal à envisager de partir autrement. Alors, bien sûr, je l'ai fait, je le ferai encore, mais il y a quelque chose quand on est seul où on est complètement ouvert à ce qui se passe, que ça soit aux autres, que ça soit au lieu. Et effectivement, ouais, il y a eu quelque chose de très fort dans la solitude. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'être baignée dans, dans plein de rencontres. Donc oui, il y avait la solitude quand je marchais la journée. J'essayais toujours de marcher toute seule ou presque. Mais par contre, aussi plein de petits moments... Alors même si ça dure 5 minutes sur une journée, on y accorde beaucoup plus d'importance des fois que des longues discussions.
Justement, tu parles de rencontres et il y a eu énormément de rencontres et des personnes extrêmement différentes. Il y a un moment, tu t'arrêtes tout particulièrement sur, en quelque sorte, le portrait des femmes battantes, tu les appelles comme ça. C'est des femmes qui vous accueillent, qui accueillent les marcheurs en fait sur le chemin.
Mmh. Quand j'ai écrit le livre, donc quand j'ai rassemblé toutes les notes que j'avais prises un peu tous les jours, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais là, la première question c'était « qu'est-ce que tu fais ?» Donc je racontais que je marchais. Et la deuxième question c'était « ah, t'es une femme toute seule, t'as pas peur ?» J'ai vraiment eu envie de rendre hommage à toutes ces femmes à qui on ne demande pas t'as pas peur ou comment tu fais toute seule. Et vraiment, c'est elles qui ont marqué notamment la première partie de mon chemin. J'ai dormi chez pas mal de femmes seules, divorcées, avec des enfants, un boulot, bref, plein de contraintes. Et qui étaient, ouais, anonymes dans le sens où j'ai pu l'expérimenter après. Donc c'était une sorte de mage.
Et il y a personnages, dit personnages, si on le lit comme presque comme une fiction dans ce récit, en tout cas très très différent. Il y a Talou, il y a aussi un trio d'agriculteurs. Ça, c'est des moments assez humoristiques, on voit qu'ils se disputent tout le temps. Enfin, finalement, c'est riche en rencontres, mais ce sont aussi des rencontres éphémères. Et des fois, c'est dur de se quitter, et en même temps, c'est nécessaire pour continuer le chemin jusqu'au bout.
Effectivement, et j'ai appris quelque chose aussi sur moi tout le long du chemin, c'est que j'avais du mal à dire au revoir. Parce que pour moi, au revoir, ça rimait toujours avec des adieux. Mmh. Et que j'aimais pas dire adieu. Et sur le chemin, on est obligé. Mmh. Et en fait, dire au revoir... Déjà, j'ai appris que dire au revoir, c'était pas dire toujours adieu. Et dire au revoir, c'est aussi profiter de l'instant présent et de ce qui se présente à nous. Que ça dure 5 minutes ou qu'il y ait plusieurs moments de rencontre ou une longue rencontre. Et avec Talou, ça a été ça. On s'est croisés complètement par hasard au début du chemin. C'était une Allemande qui marchait pendant un an avec un énorme sac à dos, une bouteille de schnapps. Elle était complètement farfelue, à contre-courant de tout. Elle commençait à marcher à 11h le matin. Elle finissait des fois à 21h. Elle se foutait des normes, entre guillemets, qu'il peut y avoir aussi sur le chemin. Et on s'est rencontrés par hasard à plusieurs reprises, sans s'échanger les numéros. Et on ne s'est pas vus pendant 1000 km. À peu près, hein, je me souviens plus. Et je l'ai vu arriver au détour d'une place, quoi. Et effectivement, je lui avais dit au revoir sans le savoir quelques semaines avant, mais il y a eu une retrouvaille. Et maintenant, j'essaye plutôt de penser les rencontres comme ça. Déjà de me dire, elle se présente à toi, c'est déjà une super chance. et peut-être que tu recroiseras ces gens en chemin.
Tu parles même de cycle dans le livre où tu dis finalement, quand quelque chose s'arrête, on le ressent comme un apaisement, c'est pas très grave. Quand on dit au revoir, justement, tu parles vraiment de cette difficulté à dire au revoir. Bah, peut-être que en fait, c'est pour se retrouver plus tard, peut-être pas, mais en fin de compte, c'est autre chose qui redémarre et c'est très très beau comme ça aussi.
Effectivement, et d'ailleurs, juste avant de marcher, quand j'ai clôturé le cycle de ma dernière expérience professionnelle, c'était très dur pour moi parce que j'étais beaucoup attachée à la structure, à ce que j'étais aussi au sein de la structure, à mes collègues qui étaient devenus mes amis, et je voulais pas dire au revoir, quoi. Et à la fois, ça m'aurait pas permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ouais, je me rappelle que les gros changements qui sont assez brutaux, en fait, ils arrivent pas par hasard et ça peut amener des très belles choses derrière.
Tu parles d'un rapport différent à ton corps. Tu as l'impression d'avoir un nouveau rapport à ton corps, de ne plus l'ignorer. Il y a aussi un nouveau rapport au temps. Finalement, tu ne penses plus le temps comme en demi-heure, en heure. Mais là, d'un coup, c'est presque en jour ou en semaine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé intérieurement aussi là-dessus.
Mmh. Sur le corps, effectivement, de cette manière, je ne peux pas l'ignorer, quoi. Quand j'ai mal à la cheville et que je marche... 8 heures par jour, il y a un moment donné où je m'arrête, ce qui arrivait plusieurs fois pendant que je marchais. Et ça a été le déclencheur de me dire, écoute ton corps à tout niveau. Et je pense que j'étais aussi pas très à l'aise avec mon corps. Et un jour, sur le chemin, on m'a dit, mais en fait, ton corps, c'est lui qui t'a déjà permis de faire 1000 ou 2000 kilomètres, quoi. En fait, pourquoi tu l'aimes pas? Et là, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai de la chance, parce que les 2-3 jours où il m'a arrêté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais sans lui? Donc, il y a eu effectivement toute une réflexion sur le corps, et puis aussi on se voit plus dans un miroir tout le temps, et on est pareil tous les jours. Moi, j'avais le même t-shirt, le même short, les 6 mois où j'ai marché, donc il y a un rapport effectivement qui évolue, et sur le temps en même temps, parce que le temps, quand on marche, on réapprend déjà à plus le compter parce que à part manger et dormir, on n'a pas de contraintes, et ça, c'est pas des contraintes de temps, quoi. On le fait à peu près quand on veut, donc ouais, se laisser guider plutôt par ce qui nous entoure, par le soleil, et que ça soit ça qui nous donne l'horizon, ça a été... Bon, c'est toujours un apprentissage en cours, hein, mais en tout cas, c'était le début.
En tout cas, quand on te lit, ça nous donne un certain élan. On a presque envie de, ça y est, de mettre aussi nos affaires dans notre sac, qui sera probablement trop chargé au moment du départ et qu'on allégera en cours de route. Et il y a ce moment justement où tu retrouves même ta maman, enfin ta mère, ta maman. Ce moment des retrouvailles, pas particulièrement avec ta mère, mais ce moment où ce chemin s'arrête, tu le craignais un peu, tu te demandais si tout ce que tu avais appris en cours de route, finalement, allait pas s'évaporer aussitôt que ça se termine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, aujourd'hui ?
Ouais, effectivement, les retrouvailles avec les proches, moi, c'était le moment où j'avais l'impression que j'allais me laisser réabsorber, quoi. Parce que j'étais dans une vie qui sortait de la norme, si la norme existe, mais j'étais dans quelque chose de quand même complètement différent. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'étais plutôt dans le don de l'autre, plutôt dans la conciliation, plutôt dans essayer de pas faire de vagues. Et là, affirmer et dire non, en fait, ma vie, je veux pas la mener de telle manière, c'est quelque chose que j'apprends toujours. Et effectivement, j'avais une peur de ça, mais je pense que je suis aussi plus indulgente avec moi-même en me disant ok, peut-être que des fois, tu vas retomber dans des anciens modèles. C'est pas ce qui te fait profondément vibrer, mais c'est pas grave, demain tu feras mieux. Et je crois que le chemin, c'est aussi l'apprentissage de ça. Être conscient je pense qu'on est dans une société qui fait qu'on va tous vers un espèce de schéma de perfection. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière ça, mais les défauts, on n'a pas le droit d'en avoir, les écarts de parcours non plus. Et voilà, j'essayais de me dire... En fait, si, et le fait de croiser des gens sur le chemin qui pleurent, qui ont des moments de faiblesse, en fait, comme tout le monde, parce que c'est humain, ça aide beaucoup à se dire, en fait, c'est ça la normalité.
Et aujourd'hui, alors, maintenant que ce chemin est terminé, est-ce que tu as des projets pour la suite ? Parce que donc, tu as écrit ce livre aussi pour transmettre finalement aux gens, et c'est très contagieux tout ce que tu peux ressentir, en tout cas tout ce que tu veux nous communiquer tout au long de cet ouvrage, c'est très très précieux. Et aujourd'hui, quels sont tes projets peut-être pour l'avenir ? Ce retour justement à la norme, à la triste norme, comment tu le gères ?
Alors tu me poses la question dans un moment où j'ai pas de plan et ça me va très bien comme ça, en fait, parce que je me suis encore rendu compte récemment que quand je cale des plans, en fait, j'arrive le jour J et puis je me dis j'ai plus vraiment envie de ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à la fin de ma marche. J'avais prévu d'aller passer 2 mois dans un refuge de haute montagne, ce que j'ai fait. Et puis j'avais quand même passé des entretiens pour un boulot aux Philippines, donc quelques mois après. Et puis j'étais super bien dans le refuge de haute montagne et finalement je suis pas partie aux Philippines. Et c'était encore un apprentissage de me dire au moins maintenant je suis capable de m'écouter. Bon, c'est dommage de faire un retour en arrière et tu devrais te dire plutôt progressivement de quoi t'as envie. Mais voilà, là les portes sont ouvertes et j'essaye de faire en fonction du temps qui arrive et ce que j'ai envie de faire demain plutôt que dans 6 mois comme on me demande souvent.
En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je le rappelle, ton livre s'appelle « Je te souhaite de te perdre en chemin ». Tu viens justement aussi à la rencontre des étudiants, des jeunes pour ton retour pour quelques temps en Mayenne. Et donc, tu transmets aussi, c'est important pour toi d'essayer de communiquer et raconter ce parcours-là.
Oui, et d'ailleurs, j'ai écrit ce livre que je ne comptais pas publier parce que c'était plutôt ma thérapie à moi. Mais en pensant à mon frère et à ses copains qui finissent leurs études et qui sont un peu perdus dans ce monde, hyper varié d'opportunités. Et je me suis dit, si je peux être une petite goutte d'eau, parce qu'on en demande beaucoup, beaucoup les voies plutôt normales, si je peux être une mini goutte d'eau ou pas, tant mieux. Et moi, j'avais aussi envie d'aller parler aux jeunes. J'avais l'impression de vieillir un peu, j'ai 30 ans. Mais voilà, de rester connectée à la jeunesse et à leurs rêves, surtout.
Je ne peux que conseiller de se l'offrir ou de l'offrir. Donc, je te souhaite de te perdre en chemin aux éditions Révolution. On peut le commander dans toutes les librairies, finalement.
Exactement.
Ou sur Internet. Enfin, ne pas hésiter. Merci, merci Elise, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un grand merci à vous.
Et donc, je vous propose une petite pause musicale. On va écouter Joséphine de MPL.
Qu'elle casse tout. À ton avis, qui donne leur prénom aux tempêtes ? Des ordinateurs, des gens importants, des observateurs, la force des vents.
D'où vient le vent ?
À ton avis, est-ce que ça leur plaît aux tempêtes ? Leur nouveau prénom, c'est pas évident d'aimer son prénom quand on devient grand. Et est-ce que tu crois que ça les prédestine leur prénom ? Ça les rend meilleurs ? Ça les fait gronder, changer de couleur, sitôt baptisés ? Et les gens qui ont ces prénoms de tempête, ça les dérange pas de voir en cauchemar leur nom gros comme ça aux infos le soir. À ton avis, d'où vient le nom? Celui qui reçoit toujours les tempêtes, qui l'a donné? D'où vient l'idée? À ton avis, ça leur plaît aux tempêtes? J'y crois pas bien, c'est humiliant. Un nom d'humain, pas étonnant. Quel casse-tout, à ton avis, d'où vient le nom? Celui qui reçoit un jour les tempêtes, qui l'a donné? D'où vient l'idée? À ton avis, ça leur plaît aux tempêtes? J'y crois pas bien, c'est humiliant. Un nom d'humain, pas étonnant. Oh, quel casse-tout! D'un océan, on a baptisé un ouragan, sur qu'il n'en demandait pas autant.
Qui sème les cendres récolte le... Oh. En fait, vous êtes perdus.
Et on fait un petit tour sur l'actu. En bref, maintenant, que s'est-il passé sur les lignes de notre TER ligérien ce mercredi matin, Lise ?
La journée n'a pas bien commencé pour certains adeptes de la SNCF puisqu'une personne a été heurtée par un train près du Mans en Sarthe. Le trafic a donc été interrompu entre Le Mans et Laval. Mes chers auditeurs, pas d'inquiétude, le trafic a repris son cours vers 11h.
Et utiliser les transports en commun, c'est un bon geste pour la planète. La municipalité de Saint-Ouen-des-Toits propose elle aussi des activités dans ce sens. Elle invite ses habitants à participer à une journée citoyenne avec au programme désherbage de la forêt urbaine et ramassage des déchets. Ce sera aussi l'occasion de redécouvrir la nature et le patrimoine local.
Et elle a lieu quand cette journée éco-citoyenne ?
Eh bien, on donne rendez-vous aux intéressés samedi 13 avril, départ prévu à 9h depuis la salle des fêtes de Saint-Ouen-des-Toits.
Être citoyen ou citoyenne, c'est aussi utiliser son droit de vote.
Effectivement, nous sommes à 2 mois des élections européennes et on apprend que le programme de l'Union Populaire sera défendu par la Mayennaise Marion Détet, porte-parole de la France Insoumise en Mayenne. Elle affirme vouloir, je cite, « défendre nos valeurs en Mayenne » et dénonce, je cite à nouveau, « un problème de répartition des richesses ». On rappelle que les élections auront lieu le 9 juin prochain et tous les Mayennais ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales.
Et pour les amoureux du sport et de la compétition, ce week-end, le motoclub d'Ernée accueille le championnat de France Miniver, une compétition de motocross de jeunes pilotes. 200 coureurs âgés de 6 à 13 ans s'affronteront sur le circuit Raymond Demy. Les essais auront lieu samedi 13 avril, donc après-midi, et les courses des différentes catégories se dérouleront le dimanche entre 8h et 18h.
Élise, tu n'aurais pas quelque chose à nous proposer pour décompresser avant le week-end ?
Si vous avez envie d'un moment de détente, vous pouvez vous rendre au musée d'art naïf et d'art singulier de Laval demain soir à partir de 19h. Un atelier d'écriture bien-être sera suivi de la découverte des œuvres de l'artiste italien Pietro Guizzardi. Vous devrez laisser parler vos sens puisque vous aurez les yeux bandés. Et c'est seulement à la fin de la visite que vous retirerez votre bandeau pour contempler ses œuvres. Côté météo, Lucie, est-ce qu'on peut ranger les parapluies aujourd'hui ?
Eh bien, je sais que certains ont commencé la journée avec un peu de soleil ce matin, mais le temps sera couvert tout l'après-midi. Pour les habitants du Nord Mayenne, gardez votre parapluie près de vous puisque quelques averses sont annoncées en soirée et dans la nuit. Il fera plutôt doux sur l'ensemble du territoire avec des températures de 12 à 14 degrés dans l'après-midi qui chuteront à 10 degrés dans la nuit. Mais alors, Lise, est-ce qu'on peut espérer un meilleur temps demain ?
Malheureusement, non, pas vraiment. Il fera entre 10 et 12 degrés dans dans la matinée pour un temps très nuageux au centre et au sud de la Mayenne et pas mal de brume dans le nord et l'est du territoire. Un ciel toujours couvert est annoncé dans l'après-midi, mais les températures grimperont, il fera entre 16 et 18 degrés. La soirée sera aussi très douce puisqu'il fera entre 15 et 16 degrés et le ciel finira même par se dégager dans le sud du département. La semaine olympique et paralympique s'étendait du 2 au 6 avril. Elle s'est illustrée dans un grand nombre de collectivités du département. Et justement, Lucie, tu t'es rendue à l'IME de Laval.
Effectivement, et parce que ça fait toujours plaisir de voir des actions mises en place pour sensibiliser au handicap. Bien sûr, la semaine dernière, il y en avait plein. Moi, j'ai choisi d'échanger avec Florian Stioui de l'IME de Laval, comme tu viens de le dire, Margot. Et au cours, je suis donc allée à un de ses ateliers qu'il animait avec l'école primaire Germaine. Je n'en dis pas plus, on y va ensemble.
Donc moi je suis Florian Stioui, je suis prof de PS sur l'IME de Laval. J'interviens auprès de jeunes qui ont des déficiences intellectuelles au niveau de l'ADAPE 53. On est trois profs de PS aussi donc sur l'ADAP 53. On a développé ce projet qui s'appelle donc les IME ouvrent leurs portes à la pratique sportive inclusive. On est deux IME, l'IME de Laval et l'IME de Château-Gontier. Et c'est la deuxième édition de ce projet qui est soutenu aussi par le conseil départemental qui aussi nous aide financièrement.
L'IME ou Institut médico-éducatif de Laval a profité de la semaine olympique et paralympique pour intervenir auprès de l'école primaire de Germaine Tillon, mais aussi le lycée agricole de Château-Gontier, le CFA. Et leur action de sensibilisation ne s'arrête pas là.
On a une culture aussi un peu à l'ADAP 53 d'aller vers l'inclusion. Parce que toute l'année aussi, on travaille avec l'école Germaine Tillon, où on pratique sur l'année aussi les activités physiques et sportives. Le but vraiment, c'est d'inverser les rôles en disant, voilà, maintenant, venez aussi chez nous. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et donc, de faire découvrir un peu nos établissements à tous ces enfants et tous ces jeunes.
Quand j'écoute Florian, je réalise que l'idée de mixité est très forte dans les initiatives dont il me parle. C'est porteur de sens et le sport est un support idéal pour sortir des a priori.
Oui, vraiment, le but, c'est de pratiquer ensemble, de jouer ensemble, de vivre ensemble pour que le handicap ne soit plus un frein. Le fait de ne pas connaître, pour ces jeunes, bah, ils se disent, oh, ça va être difficile. Et en fait, finalement, ça marche. Même super bien. La pratique de l'EPS en plus c'était vraiment un support vraiment intéressant. On le voit encore ce matin, on est en train de faire un petit jeu de ballon, on voit des difficultés, ils se prêtent le ballon, ils se passent le ballon, ils communiquent entre eux, ils jouent ensemble. Et voilà, le but c'est ça, c'est qu'après dans leur vie d'adulte, ben, qu'ils aient pas peur. C'est vraiment ce but, c'est de qu'il n'y ait plus de différence, quoi, qu'on puisse jouer et partager ensemble. Le handicap fait peur déjà, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur. Après on voit bien quand on joue ensemble, on partage ensemble, les différences n'existent plus. C'est comme quand au départ d'une course par exemple, on a la même ligne de départ, on a la même ligne d'arrivée, et voilà, on court ensemble, on partage et voilà.
Et d'ailleurs, cette année, l'IME de Laval va même pouvoir se déplacer.
On va aller aux Jeux Paralympiques cet été. Donc, il y a 30 jeunes de l'IME de Laval et Château-Gontier qui vont pouvoir aller se rendre aux Jeux Paralympiques. Donc, en plus, on va y aller en TGV, en groupe de 14. On va aller donc au Stade de France, quand même mythique, hein, voir une journée athlétisme. À Roland-Garros pour voir du tennis fauteuil. Et on va aller à Bercy pour voir du basket fauteuil. Donc, ça vient clôturer un peu aussi ce beau projet. Et on est vraiment, vraiment contents de pouvoir amener des jeunes à ces Jeux.
Pour Florian, c'est important de sensibiliser un maximum de monde au handicap. Les enjeux sont aussi au niveau des aménagements, au sein même des structures, dans la rue, et donc même dans la manière qu'on a de penser l'urbanisme avec la signalétique adaptée par exemple. Bref, en fait, se mettre à la place des autres et faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Qui plus est, personne n'est à l'abri avec un accident par exemple. Et dans tout ça, quoi de mieux pour comprendre un handicap que de le vivre ?
Oui, en fait, le but c'était aussi qui se confrontent aussi un petit peu au handicap et donc à travers la déficience visuelle par exemple. Donc là ils pratiquent, ils jouent, mais on incorpore un petit peu des lunettes, et ce qui leur permet de voir un petit peu, bah, quand on a une déficience visuelle, comment on se comporte, comment on voit, est-ce que la lumière nous gêne, est-ce qu'on voit mieux une couleur.
Ah, on voit rien. Attends, est-ce que lui il est mieux? Ah, non, c'est pire.
Quand on n'est pas touché, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte et vraiment de se mettre en situation. Et ben là, on voit bien que, par exemple, quand on est en fauteuil, dès qu'à l'instant il y a un obstacle, un trottoir, et ben, hop, ça devient vite compliqué.
Et alors, les enfants, comment est-ce qu'ils ont perçu ce moment ?
Je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans et demi. J'ai fait du tir à l'arc et un jeu de précision et de vision. On va se cacher la vue, c'est très difficile de le faire.
Pour monter avec les yeux bandés, c'était dur. Pour sauter et pour faire l'escalade là-bas. Des personnes qui sont aveugles et ceux qui étaient aussi en fauteuil roulant, c'est un peu difficile pour eux.
Mon souhait, ça serait que ça ne s'arrête pas après les JO. Ça a donné un vrai élan, mais il faut que cet élan il soit endurant et que ça continue encore après 2024. Et l'après aussi va être hyper important et que ça ne s'arrête pas justement après les JO parce qu'on a pu faire des projets, avoir des financements. Et ça, c'est un vrai plus. Il y a des terrains qui ont été construits. Enfin, maintenant, il faut continuer sur cette lancée et que ce ne soit pas un point final après les JO.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Nous sommes tous consommateurs, alors soyons de bons consommateurs. La chronique du jour nous aide sur ce chemin avec les bons conseils de l'UFC Que Choisir de la Mayenne et avec la bienveillance de Jean-Michel Guinaudot. C'est parti.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, les conseillers litiges de l'UFC Que Choisir sont sollicités pour des factures de dépannage à domicile qui paraissent élevées. Que pouvez-vous faire ?
Alors, pour commencer, je donnerai deux règles d'or. On ne fait intervenir qu'un artisan local et on lui demande un devis avant toute intervention. C'est une obligation légale, quel que soit le montant et l'objet de la prestation, urgence ou pas. L'absence de devis est une infraction punie d'une amende de 3 000 à 15 000 euros. On parle souvent de dépannage d'urgence. C'est le cas de la porte claquée derrière soi avec les clés à l'intérieur à 11 heures du soir. Mais la plupart des cas de dépannage d'urgence ne sont que des urgences relatives. Là encore, une règle d'or, solliciter l'avis d'un ami, d'un membre de sa famille qui verra le problème calmement et pourra aider à trouver la meilleure solution. Dans le cas cité de la porte claquée, on pourra peut-être trouver où dormir pour attendre le lendemain l'ouverture du serrurier près de chez soi.
Que peut-on exiger d'un artisan ?
Alors, le code de la consommation impose que le professionnel informe le plus complètement possible le consommateur sur la prestation ou le produit qu'il lui propose. C'est l'objet du devis. L'arrêté du 24 janvier 2017 précise quels sont les travaux concernés et les mentions obligatoires devant figurer sur le devis.
Vous nous parlez souvent du droit de rétractation. Qu'en est-il pour les dépannages d'urgence à domicile ?
En effet, le devis étant fait au domicile du consommateur, le Code de la consommation prévoit que le consommateur bénéficie du droit de rétractation, c'est-à-dire le droit de dénoncer le contrat, en l'occurrence le devis, pendant 14 jours après l'avoir signé. Mais l'arrêté cité précise qu'en cas de dépannage d'urgence, la renonciation au droit de rétractation ne porte que sur la prestation de dépannage d'urgence et non sur du matériel qui serait nécessaire à la réparation. Il faut savoir que si l'artisan vient chez vous, note les travaux à faire et le matériel nécessaire et vous envoie le devis, si vous signez ce devis et le renvoyez, vous n'avez plus le droit de rétractation. Le devis que vous renvoyez signé est un bon de commande ferme et définitif. Sa dénonciation ne peut se faire que par un accord amiable éventuellement en contrepartie de pénalités, qui peuvent être prévues d'ailleurs dans les conditions générales de vente.
Quand on veut faire des travaux, l'entreprise demande souvent un acompte à la commande. Quel conseil donnez-vous ?
Alors, l'acompte est une garantie pour l'entreprise, mais un risque pour le consommateur. De notre point de vue, il doit être d'un montant le plus faible possible et en rapport avec la valeur des matériaux que l'entreprise doit se procurer pour réaliser le chantier. Si la prestation ne comporte que de la main-d'œuvre ou très peu de marchandises, un maximum de 10% est souhaitable. Si des travaux plus conséquents, ne jamais dépasser les 30%. Une partie du montant du devis peut être donnée au début du chantier. Le solde ne sera donné qu'après la signature de l'attestation de fin de chantier, après réception de la facture. La retenue de 5%, souvent mise en avant, n'est pas prévue par les textes. Elle peut être prévue dans le devis. Encore une règle d'or, on ne paye que ce qui est réalisé. Le paiement total d'un devis n'a jamais fait accélérer un chantier Et une telle demande de la part d'une entreprise est souvent un signe de sa mauvaise santé financière.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ses conseils en cas de dépannage à domicile. Si l'on souhaite une aide pour un litige avec un artisan, un commerce, une banque ou tout autre professionnel, pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
Le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou nous proposer vos services. Pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. L'agité du local est terminée pour aujourd'hui. Merci à Élise d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Jean-Michel Guinaudeau, Lise et Lucie. Et alors, on commence la soirée avec Novorama.
Et oui, à 19h, Novorama sélectionne pour nous les meilleures sorties indie, rock, pop, électro et nous permet de les découvrir avec des interviews des artistes émergents.
Ensuite, on continue avec The Voice of Cassandre.
Ça commence à 20h et là, on écoute tout type de playlists et mixtapes. L'heure est à la découverte, il faut se laisser emporter.
Et la soirée se termine avec du jazz sur l'autre radio.
Oui, Bruno prend l'antenne à 21h avec Déclectique Jazz. Et au programme aujourd'hui, Christophe Panzani, Guillaume Flouza et bien d'autres avec un homme à Casey Benjamin.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Nous serons en compagnie du nouveau collectif Nos Funérailles, puisque la mort est notre avenir, réapproprions-nous-la. C'est un peu ça l'idée de ce collectif qui nous propose de penser et parler notre mort sans en faire un sujet tabou et de bien connaître toutes les possibilités qui s'offrent à nous. D'ici là, restez bien sur nos ondes, savourez l'autre radio, c'est une caresse dans le creux de l'oreille. Et puis surtout, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.